journal Florence Paracuelos, bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous. À la une ce matin, vous avez adulé Antoine Griezmann, N'Golo Kanté et Benjamin Pavard. Vous allez adorer Valérie Gauvin, Gaëtan Tinet et Eugénie Le Sommer, des Bleus ES, hôtes de la Coupe du Monde de foot en France. Ça commence ce soir avec du beau jeu, on l'espère, bien exposé, en tout cas médiatiquement, parce qu'il y a de l'engouement pour le foot féminin, signe des temps. Nicolas, on verra ça à 8h20.
Oui, avec une table ronde consacrée à cette compétition qui démarre. Intervenez, je compte sur vous. 01 45 24 7000, les réseaux sociaux, l'application mobile France Inter.
À la une également, travailler plus pour être indemnisé. C'est la réforme de l'assurance chômage qui se profile selon les échos. 100 millions d'euros d'impôts ramenés dans les caisses de l'État grâce aux indics du fisc. On parle d'étendre le système aux fraudes à la TVA. On verra que Xavier Bertrand est l'homme de droite qui fait peur à la Macronie. Et puis on transpirera à grosses gouttes en Inde par 50 degrés en ce moment dans le Rajasthan.
France Inter.
Vous aurez du foot et de la cuisse. Ainsi parlait le président du comité d'organisation de la Coupe du Monde féminine de 1971, compétition non officielle à l'époque et qu'il paraît loin. Ce temps du football au féminin folklorique et machiste dans les commentaires des hommes. Ce soir, on mesurera le chemin parcouru lors du match France-Corée du Sud. Coup d'envoi d'un mois de Coupe du Monde en France. Au commentaire sur TF1, le binôme du dernier mondial masculin, Grégoire Margoton et Bichente Lizarazu, qui ne parleront que de sport, à l'image des joueuses de Corinne Diacre. Ce qu'elles veulent évidemment, c'est gagner, remporter la coupe à la maison, comme les Bleus de 98. Valérie Gauvin, en attaque, va tout faire pour y arriver.
On a envie d'avoir la même chose, d'avoir cette première étoile pour nous. La compétition des garçons, c'est la compétition des garçons. Et nous, on a notre compétition, ça sera jamais pareil. Donc c'est à nous de mettre le jeu à notre compte et de faire le meilleur possible, de donner les meilleures choses possibles sur le terrain pour qu'on puisse aller au bout. Tout le monde veut la gagner, on est chez nous. Une compétition, on a envie de faire le maximum. On n'est pas là pour regarder les autres équipes. Si chaque équipe n'a pas l'objectif de finir première, ça ne sert à rien de la jouer.
Voilà, Valérie Gauvin, attaquante des Bleus. Voici maintenant le conseil d'un de ses collègues, un Bleu champion du monde de l'été dernier et supporter cet été, c'est Blaise Matuidi.
La Coupe du Monde, c'est le summum, donc on va être à fond derrière elle et j'en suis persuadé qu'ils vont faire de grandes choses. Mais surtout, il faut qu'ils prennent du plaisir parce que c'est des moments que l'on n'oublie pas, des moments qui passent très très vite. Il faut vivre ces moments à fond.
Voilà, Blaise Matuidi et Valérie Gauvin à votre micro. Cédric Biguiou, bonjour.
Bonjour Florence.
Les Bleus sur le terrain dès 21h ce soir. Donc, elles n'ont pas passé le stade des quarts de finale lors des trois dernières compétitions internationales. Alors, quelles sont leurs chances cette fois?
Alors, ce qui va manquer aux Bleus, vous le disiez, c'est un peu le vécu international. Hein. Vous le disiez qu'elles n'ont jamais dépassé le stade des quarts de finale sur les quatre dernières grandes compétitions auxquelles elles ont participé. Elles avaient pris la quatrième place en 2011. Derrière, elles n'ont jamais véritablement confirmé. Mais on a, pour cette Coupe du Monde, j'ai envie de dire, une nouvelle équipe de France, c'est-à-dire un alliage entre les cadres, celles qui sont restées, celles qui ont vécu les dernières saisons, Wendy Renard, Amandine Henry, Eugénie Le Sommer, vous en parliez tout à l'heure. Et puis il y a des jeunes qui arrivent, des noms auxquels il va falloir se familiariser. Gridjen Bock, c'était une défenseuse centrale. Il y a Kadidiatou Diani, Delphine Cascarino, et ça peut marcher, ça peut fonctionner parce qu'il y a eu des matchs amicaux qui ont été très concluants et si les Françaises arrivent à bien gérer la pression populaire, elles peuvent aller très loin dans cette compétition.
Cédric, au-delà de l'enjeu sportif dont vous venez de nous parler, cette Coupe du Monde féminine en France, c'est aussi du business avec des stades déjà remplis aux deux tiers, des droits télé, des sponsors, signe de la place qu'occupe désormais le foot féminin.
Alors il n'y a pas de données chiffrées officielles pour l'instant sur les retombées économiques à attendre. C'est beaucoup plus compliqué finalement d'avoir des repères, des tendances que pour une Coupe du Monde masculine, même si on sait déjà que ça n'aura pas les mêmes retombées, hein, faut pas rêver, que pour une Coupe du Monde masculine. Mais c'est vrai qu'il y a un vrai engouement populaire autour de cette Coupe du Monde. Il y a près d'un million de billets qui ont été vendus pour l'instant pour cette compétition et c'est vrai que la billetterie c'est un très très bon indicateur. Il y a plus d'une dizaine de matchs à guichet fermé. TF1 investit entre 12 et 13 millions pour pouvoir transmettre cette Coupe du Monde. Le groupe qui va diffuser au minimum 4 matchs sur sa chaîne chaîne principale, c'est quand même très très bien, qui espère 15 millions de recettes. Mais ça, évidemment, ça va dépendre en majeure partie du parcours de l'équipe de France féminine.
Cédric Guillou, merci du service des sports de Radio France et vous restez avec nous.
Oui, on vous retrouve Cédric vers 8h20 pour cette table ronde où Roxana Maracineanu, la ministre des Sports, sera également avec nous. Et Georges Vigarello, l'historien du corps, l'historien des sensations qui a croisé évidemment le sport dans ses nombreux objets d'études. Il est 8h05, Florence, s'attendre à un durcissement de l'indemnisation du chômage.
C'est ce que croient savoir les Échos ce matin, 10 jours avant la présentation de la réforme de l'UNEDIC. Il faudra, dit le journal, avoir travaillé 6 mois sur 24 pour toucher ses allocations chômage, contre 4 mois sur 28 actuellement. Par ailleurs, l'indemnisation des très hauts revenus sera dégressive au bout de 6 mois. La réforme doit faire économiser plus d'1 milliard d'euros par an à l'État. Le bug des impôts en début de semaine était-il seulement dû à un embouteillage de connexion? Selon France Info, des adresses IP suspectes venues de l'étranger ont été repérées lundi soir. 2 enquêtes sont ouvertes, internes au ministère des Finances et puis à l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information. Et quand on fraude le fisc, on peut être dénoncé. C'est même encouragé par Bercy, qui récompense depuis 2 ans ce que l'on appelle les aviseurs fiscaux qui ramènent des affaires internationales. Et ça marche tellement bien, Delphine Simon, qu'une mission parlementaire demande à élargir le dispositif à la fraude à la TVA.
Ces indics du fisc ont permis à Bercy de récupérer près de 100 millions d'euros en 2 ans. Une centaine de dossiers ont été traités, la moitié classée sans suite. Mais le montant de 2 affaires est significatif. L'essentiel des pénalités concerne l'impôt sur le revenu. Résultat éloquent pour Christine Pires-Beaune, à l'origine du dispositif et rapporteur de la mission parlementaire. Il faut donc l'élargir à la fraude à la TVA.
Quand on sait les montants de fraude estimés liés à la TVA, on parle de 20 milliards d'euros. Au carrousel de TVA notamment, on peut penser à juste titre qu'il faudrait les inclure. Aujourd'hui, c'est dommage, il y a 7 affaires qui ont été amenées, qui n'ont pas pu être étudiées, tout simplement parce que la loi l'avait pas prévu.
Contrairement aux lanceurs d'alerte, ces aviseurs fiscaux sont rémunérés, mais pas plus 1 million d'euros. Ce plafond, les députés souhaitent le supprimer.
Mettre un plafond, c'est peut-être se priver des très très grosses affaires. Avec, j'imagine aussi pour ces aviseurs-là, des risques vraiment importants et donc une attente de rémunération au-delà du million.
Des propositions que Bercy regarde avec bienveillance. Pas impossible qu'on les retrouve dans la prochaine loi de finances à l'automne.
Delphine Simon, comme prévu, l'Assemblée a cette nuit assoupli la limitation à 80 km/h sur les routes secondaires. Les présidents de conseils départementaux et les maires vont pouvoir déroger à la règle sur les routes qu'ils auront choisies après avoir réalisé des études d'accidentalité. Les 80 km/h détonateurs du mouvement des Gilets jaunes, l'un d'entre eux a été condamné à 1 an de prison ferme hier pour s'être attaqué au temple maçonnique de la ville de Tarbes en marge d'une manifestation au mois de mars. 8 autres qui l'accompagnaient ont pris des peines d'amende et de sursis. Qui va reprendre la droite en déroute depuis les européennes? Après la démission de Laurent Wauquiez et le départ de Valérie Pécresse, les Républicains se cherchent une tête d'affiche. Et parmi ceux qui comptent à droite, il y a Xavier Bertrand. Il a été un des premiers à quitter le parti après l'arrivée de Laurent Wauquiez. Donc peu de chance qu'il y remette les pieds, Karine Bécart. Mais c'est l'homme qui inquiète la majorité. L'un des seuls, dit-on, à La République En Marche à pouvoir rivaliser avec Emmanuel Macron.
Avec sa droite sociale, il peut nous faire très mal. Ce député de la majorité reconnaît qu'il observe Xavier Bertrand depuis déjà quelques temps. Depuis la crise des Gilets jaunes, précisément quand le président de la région des Hauts-de-France s'est permis d'offrir quelques solutions pour aider Emmanuel Macron. J'ai compris à ce moment-là, poursuit cet ancien jeune socialiste, que le centre-gauche pouvait assez vite nous échapper et qu'il saurait, lui, le récupérer. Alors officiellement, personne n'a peur dans la majorité de Xavier Bertrand. Mais beaucoup ont commencé à noter que d'abord, je cite, ce n'est pas un techno. Ensuite, qu'il a l'air authentique et qu'il ne s'est associé cette semaine à aucune séquence de récupération politique. Mais ce qui semble le plus inquiéter ce député des Hauts-de-Seine, c'est que l'ancien ministre de Nicolas Sarkozy a déjà eu à combattre contre Marine Le Pen, comme Emmanuel Macron. Ce qui les met finalement, je le cite, dans une égale position. Alors, pas paniquer, non, les députés macronistes, mais ils ont visiblement déjà commencé à se méfier.
Pas de nouveaux ours élytroyés dans les Pyrénées. Le gouvernement renonce à introduire de nouveaux plantigrades alors qu'il y en a une quarantaine comptabilisés dans le massif. Le plan ours a été présenté hier à Toulouse pour aider les éleveurs. Des mesures d'effarouchement sont prévues entre autres, mais qu'ils jugent insuffisantes, comme le plan dans son ensemble, alors que les défenseurs de l'ours, eux, les trouvent excessives. Stéphanie Glaisis.
L'État s'est engagé à ne plus réintroduire d'ours dans les Pyrénées, sauf en cas de mortalité due à une action de l'homme. Franck Watts, éleveur ariégeois de la Fédération Ovine.
Il pourrait y avoir 200 ours dans les Pyrénées. Tant que les troupeaux ne seraient pas attaqués, ça ne nous pose aucun problème.
Donc les chiens patous ou les barrières électrifiées devant les paquages, ça ne sert à rien.
Par rapport à des attaques d'ours, ça ne sert à rien. La cohabitation, c'est un mythe. Ça n'existe pas. Ça n'a jamais existé dans l'histoire du pastoralisme pyrénéen. Et ça n'existera pas.
La FNSEA majoritaire a joué la politique de la chaise vide, et plus étonnant, les associations de protection de l'ours aussi. Jérôme Houillon, du collectif associatif Cap-Ours.
Par exemple, l'effarouchement d'ours, sonore lumineux, et ça peut être effarouchement renforcé avec des tirs en balles caoutchouc. Quoi. Le problème, c'est que si les troupeaux ne sont pas protégés et qu'un ours attaque un troupeau, c'est pas un ours à problème. Nous, on est pour un effarouchement uniquement et strictement dans le cadre du protocole ours à problème. Pas dans le cas où un ours attaque des troupeaux qui sont pas gardés. Quoi.
L'État a également proposé sur les estives attaqué par l'ours, un second berger d'appui financé à 100% sur fonds publics, et aussi d'augmenter le barème d'indemnisation des brebis tuées. C'est un début, reconnaissent les éleveurs présents, mais l'État peut et doit mieux faire. Toulouse, Stéphanie Glaisis, France Inter.
Loin des montagnes pyrénéennes, l'irrespirable canicule indienne, 50 degrés dans le Rajasthan, ces jours-ci l'un des endroits les plus chauds du monde. En ce moment, les climatiseurs tournent à plein régime et les Indiens pourraient en installer plus de 200 millions dans les 15 ans à venir. Selon l'ONU, le réseau électrique indien ne pourra pas suivre. Les autorités cherchent donc des alternatives plus durables. Reportage à New Delhi, signé Sébastien Farcy.
Il est 14h et il fait déjà plus de 42 degrés à l'ombre dans le sud de New Delhi. Deux pédaleurs de vélo-taxi épuisés attendent des clients. C'est intenable de rouler par cette chaleur, dit l'un d'entre eux. Parfois, ma tête tourne tellement que je tombe inconscient. Les habitants qui le peuvent se réfugient donc à l'intérieur et allument leur climatiseur. Le problème, c'est que ces machines relâchent des gaz à effet de serre et sont très gourmandes en énergie. En été, 40% de l'électricité de New Delhi est utilisée rien que pour refroidir les bâtiments. Pourtant, des alternatives plus économes existent, comme la climatisation de quartier, un système qui tourne depuis 11 ans en banlieue de New Delhi. Pankaj Singla, de la compagnie Broad, en charge du projet. Nous faisons circuler de l'eau froide dans ces tuyaux qui circulent ensuite dans 12 bâtiments du quartier, dit-il. Ensuite, des ventilateurs soufflent sur ces tuyaux froids pour refroidir les pièces. Cela climatise plus d'1,5 million de mètres carrés uniquement avec de l'eau. Si vous utilisez des climatiseurs électriques, vous aurez besoin de 60 fois plus d'électricité. Le gouvernement vient de lancer une mission froid dont le but est de réduire de 30% en 20 ans la dépense énergétique de tous les systèmes de climatisation. À New Delhi, Sébastien Farcy, RFI pour France Inter.
Et en France, c'est une tempête hivernale qui guette à quelques jours de l'été. 8 départements du Grand Ouest en vigilance orange. On attend Miguel et ses rafales de 110 à 120 km/h accompagnées de pluie.
Et c'est de mauvais augure pour la journée très chargée à Roland-Garros. 4 demi-finales.
Bah oui, 4 demi-finales, celle des hommes, celle des femmes, avec le match, Nicolas, que tous les amateurs de tennis ne voudront rater pour rien au monde. Nadal, Federer, Nadal à 12h50 sur le central s'il ne pleut pas, qui sera suivi par un match Djokovic-Dominic Thiem. Les demi-dames ne se joueront donc pas sur le central. Ashleigh Barty et l'américaine Amanda Anisimova ont rendez-vous sur le Langlen. Johanna Konta et Markéta Vondroušová sur le Simone Mathieu, nichés tout au fond du jardin des Serres d'Auteuil, ce qu'Amélie Mauresmo trouve honteux. Il y aura des Français en finale à Roland-Garros.
Ah, en double.
Ben oui, en double. Jérémy Chardy, associé à Fabrice Martin. Jérémy Chardy qui s'est qualifié pour la finale du double. Donc après cette victoire hier face à une paire colombienne. Enfin, ou presque, c'est après-demain dimanche
oui.
que les jurys du Livre Inter vont délibérer hein, sous présidence de Riyad Satouf. On saura
et
lundi
Eva
matin.
Béton.
Eva Béton,
oui.
grande prêtresse du Livre Inter devant l'Éternel, qui nous a fait entendre les auteurs des 10 livres en compétition pendant ces 15 derniers jours. La dernière que nous allons entendre ce matin est violoniste et écrivaine. Elle s'appelle Léonore de Recondo. Son livre s'appelle Manifesto, l'histoire d'une femme qui accompagne son père mourant et qui lui invente pour sa dernière nuit un interlocuteur nommé Ernest Hemingway.
L'enjeu pour moi, c'était de faire un hommage, un portrait de mon père, parce qu'il a été évidemment extrêmement important dans ma vie. On a eu un très bon rapport, donc c'est pas un livre de règlement de compte. Et j'ai eu envie de prendre la trame de cette dernière nuit pour insuffler des mots, redonner parole à mon père. J'avais envie de lui trouver un interlocuteur. Je voulais que mon père parle de son art, parle de sa vie, parle aussi de ce qu'il a traversé, c'est-à-dire la guerre d'Espagne en tant qu'immigré, de réfugié républicain, et de l'art comme une survie, comme une possibilité de transfiguration de ce monde. Et donc Hemingway m'a sauté aux yeux parce que c'était évidemment un écrivain très engagé, il adorait l'Espagne, ils avaient beaucoup de choses en commun, ils avaient aussi une vie traversée par le deuil. Et puis je me suis aperçue au cours de l'écriture qu'Hemingway était un ami de la famille, donc cette intuition que j'avais eue au départ s'est révélée juste et pour moi ça a été une sorte de moment de grâce. Et cette conversation entre ces deux hommes assis sur un banc, sont leurs esprits qui conversent, cette conversation c'est la conversation à bâton rompu de deux êtres qui ont tout à dire et qui n'ont plus rien à perdre.
Léonore de Recondo pour Manifesto, vous pouvez l'entendre en longueur, Léonore de Recondo, sur franceinter.fr. Enfin, il s'appelait Dr. John. Dr. John, l'une des figures les plus respectées de la Nouvelle-Orléans, mort hier à l'âge de 77 ans, après une vie à inventer son propre style entre jazz, blues, rock et culture vaudou. Il avait reçu 6 Grammy Awards. Et ce que vous entendez là, Such a Night, c'est la BO du film The Waltz de Martin Scorsese, 1976, Nicolas.
Merci.
The Waltz.
Merci Florence Paracuelos.